Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. Gabriel Attal veut qu'une loi sur la décentralisation soit présentée avant la fin de l'année. Devant le Sénat, le Premier ministre met l'accent sur les territoires, mais il n'a fait aucune annonce majeure, nous dira Stéphane Robert. Malgré les réponses gouvernementales et une première concession de la part de la Commission européenne sur les jachères, de nombreux agriculteurs poursuivent leur blocage, analyse de Catherine Pétillon. L'Union européenne ne tiendra pas sa promesse de fournir à l'Ukraine 1 million d'obus d'ici fin mars. Le chef de la diplomatie, Josep Borrell, réclame un inventaire du soutien fourni par les États membres. Éclairage de Nathanaël Charbonnier. Et puis une nouvelle révélation sur l'AfD en Allemagne. Il n'y a pas eu une, mais plusieurs réunions de militants d'extrême droite sur le thème de la remigration des étrangers. Nous ferons le point avec Sébastien Baer à Berlin. Au lendemain de son discours de politique générale prononcé à l'Assemblée nationale, Gabriel Attal a renouvelé l'exercice au Sénat. Le Premier ministre est revenu sur sa méthode, dialoguer, écouter et décider. Décider, précise-t-il, de mesures claires et compréhensibles. Décider pour que les choses changent vraiment, toujours pour les Français. Bonsoir Stéphane Robert.
Bonsoir Aurélie.
Devant la Chambre haute du Parlement, Gabriel Attal a davantage insisté sur le travail de terrain, sur les territoires, avec une annonce, une loi sur la décentralisation qui doit être présentée avant la fin de l'année.
Oui, le ton du Premier ministre était cet après-midi beaucoup plus apaisé que celui employé hier à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de cri au Sénat, pas d'insulte en direction de l'orateur. On y fait preuve par conséquent de beaucoup plus d'amabilité.
Je n'imagine pas la République sans le bicamérisme. Nous avons besoin du Sénat.
Après 3 quarts d'heure au cours desquels Gabriel Attal a répété la feuille de route déjà présentée hier, il en est venu aux mesures plus spécifiques concernant les territoires dont les sénateurs sont les représentants. Il a rappelé qu'une mission a été confiée en novembre dernier à l'ancien ministre Éric Woerth afin de simplifier l'organisation territoriale et de réduire le millefeuille administratif. Et il a confirmé qu'une loi sera effectivement présentée d'ici la fin de l'année.
Reconnaissons-le, les compétences des uns et des autres sont dans un véritable casse-tête. Elles s'enchevêtrent. La règle doit être simple. Pour une compétence, il faut un responsable et un financement dédié. D'une part, nous simplifierons drastiquement les normes applicables aux collectivités pour redonner du pouvoir d'agir aux élus locaux. D'autre part, je veux réaffirmer un principe simple. Le préfet doit avoir autorité sur les opérateurs de son département pour mieux coordonner leur action.
Les quelques applaudissements ne doivent pas cacher les craintes de nombreux sénateurs. Crainte que la décentralisation promise s'apparente davantage à une déconcentration, c'est-à-dire à une reprise en main des compétences par l'État au niveau local. Crainte également qu'on supprime les départements en tant que collectivité territoriale. Par ailleurs, le Premier ministre a confirmé préparer une loi moins contestée et qui était déjà dans les tuyaux, une loi qui vise à créer un statut de l'élu local.
Élu local, c'est le plus beau des engagements. C'est se battre pour un territoire. Une parcelle de notre pays qui détient une part de son histoire et de son identité.
Et puis Gabriel Attal a aussi confirmé qu'il entend modifier le mode de scrutin pour les élections municipales à Paris, Lyon et Marseille, avec une loi qui sera là encore présentée avant la fin de l'année.
Stéphane Robert. Gabriel Attal avait fait plus d'annonces hier à l'Assemblée nationale et prononcé quelques phrases choc à l'encontre des mineurs délinquants. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, tu apprends à la respecter. Il a évoqué la mise en place de travaux d'intérêt éducatif pour les mineurs délinquants de moins de 16 ans. Ce matin, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a présenté les choses sous un jour plus bienveillant, soulignant que lors des émeutes de juillet dernier, 60% des mineurs interpellés étaient élevés par une femme seule. Il a expliqué que policiers, gendarmes et éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse pourraient jouer un rôle de vigie et donner un coup de main aux mamans dépassées, par exemple en leur proposant de placer leurs enfants dans des internats de jour comme de nuit. Mathieu Moreau, éducateur de la PJJ, estime que le gouvernement navigue à vue. Pour lui, ces annonces témoignent d'une méconnaissance des acteurs de terrain et de leurs actions.
En ce qui concerne les difficultés qu'on peut rencontrer au sein d'une famille, sur le plan social, sur le plan familial, c'est la protection de l'enfance qui est le premier niveau de réponse. Mais on sent bien que ce gouvernement n'en fait que peu état, puisque c'est un sujet qui est largement abandonné, et les moyens dont dispose aujourd'hui la protection de l'enfance sont réduits à peau de chagrin. Il y a des décisions judiciaires en protection de l'enfance, en placement, qui sont pas appliquées. par manque de place dans les foyers, dans les familles d'accueil, etc. Et là, on nous ferait croire que soudainement, en claquant des doigts, les choses seraient résolues. Donc, il y a quand même aussi un effet d'annonce qui est un petit peu pervers, parce qu'on sait très bien, nous les professionnels, qu'on ne disposera pas de ces moyens-là. Et plutôt que de dire la PJJ va aller à la rencontre de parents célibataires en difficulté, il faudrait plutôt donner les moyens aux services de terrain, ce qu'on appelle les éducateurs de rue ou de quartier vulgairement. Nous, notre mission à la protection judiciaire de la jeunesse, c'est de prendre en charge des jeunes qui ont transgressé la loi dans le but de les accompagner. On agit avec la décision d'un magistrat. On ne décide pas du jour au lendemain de se présenter dans une famille et de dire « est-ce que je peux vous aider ?» C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, il y a une méconnaissance très très grave de nos missions, en fait. Et venant du ministère de la Justice, ça fait quand même froid dans le dos.
Mathieu Moreau, éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, répondait à Jeanne Serrin. Des transporteurs s'agacent de la mobilisation des agriculteurs. Ils dénoncent des blocages inacceptables sur les axes routiers, les sites logistiques et autour des places portuaires et aéroportuaires. Et ils demandent au gouvernement des mesures de soutien à court terme. Effectivement, les barrages continuent et plusieurs agriculteurs sont entrés cet après-midi sur le marché de Rungis. Les annonces gouvernementales ne leur ont manifestement pas suffi. Avant de partir pour Bruxelles, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, a pourtant annoncé une nouvelle aide, Catherine Pétillon, en direction cette fois des viticulteurs.
Le ministre de l'Agriculture a précisé la mise en place immédiate d'un fonds d'urgence de 80 millions d'euros pour soutenir les viticulteurs qui connaissent des difficultés de trésorerie. Les demandes seront ouvertes dès lundi prochain et les sommes réparties par les préfets des départements où se trouvent les bassins viticoles en crise. Le ministre a promis des premiers paiements avant le salon de l'agriculture le 24 février. À cela s'ajoutent 150 millions d'euros de crédits supplémentaires pour aider plus structurellement les viticulteurs souhaitant se diversifier. Pour tenter de calmer la colère et continuer à occuper le terrain sans grande nouveauté à proposer, Marc Fesneau a détaillé cette mesure financière annoncée par Gabriel Attal. Cette nouvelle aide intervient après une série d'autres crédits annoncés ces derniers jours. 50 millions pour les éleveurs dont les vaches ont été touchées par la maladie hémorragique épizootique. La même somme promise à la filière bio. Car face à des agriculteurs qui demandent des réponses immédiates, Gabriel Attal n'a de cesse de répéter qu'il agit rapidement. Or, le gouvernement n'a pas beaucoup d'outils à sa main à effet immédiat. Les aides financières en font partie. Si on les additionne et qu'on ajoute le manque à gagner pour l'État que représente le maintien de l'exonération fiscale sur le gazole non routier, les sommes sont importantes. Un coup de taille pour l'État, donc, qui ne semble pourtant pas en tirer un grand bénéfice politique. Les difficultés sont si disparates dans le monde agricole que sortir le carnet de chèques conduit à du saupoudrage ici et là et ne semble pas constituer une réponse d'ensemble visible et de nature à répondre aujourd'hui aux attentes des agriculteurs mobilisés.
Dans l'espoir de désamorcer la colère des agriculteurs français, allemands ou encore polonais, la Commission européenne propose d'accorder une dérogation partielle aux obligations de jachère dans l'Union et de limiter toute hausse incontrôlable des importations agricoles ukrainiennes. La nouvelle ministre de la Culture relance l'idée d'une fusion de l'audiovisuel public. Selon Rachida Dati, cela permettrait de renforcer ce service public, lutter contre la désinformation et faire le poids face aux plateformes culturelles comme Netflix. Les tentatives de rassembler France Télévisions et Radio France se multiplient depuis 2015. Bonsoir François Chagnot.
Bonsoir Aurélie.
Les réformes proposées par le gouvernement ou les parlementaires n'ont pour l'instant jamais abouti, mais les propos de Rachida Dati indiquent un changement de cap.
Oui, la ministre a réitéré cette volonté d'accélérer la cadence ce matin sur France Inter.
Je trouve que l'audiovisuel public, si vous voulez le préserver, regardez les médias privés, ils ont rassemblé leurs forces. On ne pourra pas faire autrement.
C'est une BBC à la française, c'est quoi ?
C'était mon idée quand j'étais pas ministre de la Culture. Il faut rassembler les forces. Il faut un pôle puissant. Il peut y avoir des fusions, des coopérations, des synergies positives. C'est ça auquel il faut penser.
Alors, en disant cela, Rachida Dati va à l'encontre de sa prédécesseur, Rima Abdul-Malak, et reprend les grandes lignes de la proposition de loi sur la réforme de l'audiovisuel public votée en première lecture par le Sénat en juin dernier. Le sénateur Les Républicains Jean-Raymond Hugonet en est le rapporteur.
C'est exactement ce que l'on préconise au Sénat depuis 2015. L'urgence aujourd'hui, c'est quand même le financement, puisqu'on sait qu'à partir du 1er janvier 2025, la fraction de TVA qui avait été trouvée pour financer l'audiovisuel public serait contraire à la LOLF.
Alors la LOLF, c'est la loi organique de finances qu'il faudrait donc modifier. Le député Les Républicains, Jean-Jacques Gauthier, a préparé les outils pour le faire.
Deux textes qui sont prêts, le texte du Sénat est prêt, plus sur la gouvernance, et le nôtre, plus sur les finances, pour permettre de pérenniser le système actuel, qui est prêt aussi, mais qui nécessite une modification de la loi organique, ce qu'on a écrit avec Quentin Bataillon. Mais les finances, la date butoir, c'est le 31 décembre. Donc moi, j'aimerais bien avoir un texte avant l'été quand même. Donc la balle est clairement dans le camp du gouvernement.
Et face à ces perspectives de réforme accélérée, la CGT de France Télévisions évoque un projet d'ORTF 2.0 qui aurait pour seul objectif les économies budgétaires.
François Chagnot. Des centaines de milliers d'Allemands sont récemment descendus dans les rues pour manifester contre l'AFD, le parti d'extrême droite. La révélation, il y a un peu plus de deux semaines, d'une réunion secrète de la droite radicale allemande à Potsdam, près de Berlin, avait provoqué une onde de choc. Les militants avaient notamment discuté d'un plan pour expulser les étrangers. Nouveau choc aujourd'hui. Un quotidien affirme que cette réunion n'était pas la première. Un autre rassemblement aurait eu lieu en Bavière en fin d'année dernière, Sébastien Baer.
C'est le journal d'Augsbourg en Bavière qui révèle l'affaire et l'existence de cette réunion en tout point identique à celle de Potsdam. Même invité vedette, Martin Zellner, 35 ans, le fondateur du mouvement identitaire autrichien. Même programme, le concept de remigration des étrangers, autrement dit un projet destiné à les expulser d'Allemagne. Même public, une soixantaine de personnes, dont deux députés d'extrême droite au Parlement de Bavière. Des photos publiées sur les réseaux sociaux témoignent de leur présence. La réunion s'est tenue deux semaines avant celle de Potsdam. Un samedi de novembre, le jour du début du carnaval à Dasing. C'est une ville de 5000 habitants, à 60 km au nord-ouest de Munich. Dans une vidéo enregistrée quelques heures après sa conférence, Martin Zellner, le militant de l'extrême droite autrichienne, se réjouit du succès de l'événement dans une salle pleine avec beaucoup de jeunes. « Je suis fier de la jeune génération », dit-il. Cette nouvelle révélation a provoqué consternation et indignation parmi les dirigeants politiques de Bavière. Le chef du parti conservateur au Parlement s'inquiète de ces réunions, je cite, destiné à provoquer un coup d'État en Allemagne. Comme après la rencontre de Potsdam, certains réclament l'interdiction de l'AFD dans le pays ou, à minima, la suspension des subventions versées au parti.
Sébastien Baer à Berlin. Un Conseil européen exceptionnel aura lieu demain à Bruxelles. Les dirigeants doivent adapter les ressources de l'Union européenne aux enjeux prioritaires des années à venir. Les échanges porteront notamment sur les enjeux de sécurité et de défense et surtout, Nathanaël Charbonnier, sur la nécessaire accélération du soutien apporté à l'Ukraine.
L'objectif est de pouvoir verser 50 milliards d'euros sur 4 ans à l'Ukraine. Pour cela, les dirigeants devront convaincre la Hongrie de ne pas mettre son veto sur ce nouveau paquet d'aide. D'autant que les nouvelles ne sont pas forcément rassurantes pour les Ukrainiens. Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, vient de confirmer que l'Europe ne fournira que la moitié du million d'obus qu'elle s'était engagée à livrer d'ici la fin mars. Josep Borrell qui demande aux Européens de coordonner leurs efforts et surtout de dire qui fait quoi et qui donne quoi.
Nous avons demandé aux ministres de présenter précisément ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font et ce qu'ils prévoient de faire. C'est important de clarifier la situation et savoir où nous en sommes et où nous en serons d'ici mars et d'ici la fin de l'année.
Un état des lieux indispensable alors que l'Allemagne annonce vouloir accroître son aide à l'Ukraine et que la France est appelée, elle, à doubler son effort. Et cela dans une tribune publiée ce mercredi dans le journal Le Monde, tribune signée par des associations, des représentants de la société civile, mais aussi, et c'est une première, par des militaires.
Une semaine après le crash d'un avion militaire russe transportant selon Moscou 65 prisonniers ukrainiens, la Russie et l'Ukraine ont procédé aujourd'hui à un nouvel échange de prisonniers, environ 200 soldats de chaque camp. Le Hamas examine actuellement une proposition d'accord de trêve avec Israël, mais pour l'instant, la guerre continue dans l'enclave. Le ministère de la Santé du Hamas affirme qu'il y a eu 26 900 morts à Gaza, bilan qui, selon beaucoup d'experts, pourrait s'alourdir puisque des victimes sont toujours coincées sous des décombres et les combats sont toujours particulièrement meurtriers dans le sud, Thibault Lefebvre.
Il fait froid la nuit et il pleut par intermittence. Le centre-ville de Khan Younes est un champ de ruines. Les civils fuient vers le sud dans des rues boueuses. L'armée israélienne bombarde des positions du Hamas, parfois au plus près des abris de l'ONU ou des hôpitaux. Ces soldats opèrent au sol. Ils sont soutenus par des tirs d'artillerie et des chars qui encerclent la ville. Khan Younes est en état de siège et l'État hébreu pense pouvoir trouver des otages et les principaux commanditaires des attaques du 7 octobre dans les tunnels. Car Yahya Sinwar, le leader du Hamas à Gaza, et Mohamed Deif, qui dirige la branche armée du mouvement, sont originaires de Khan Younes. La guerre continue aussi au nord. En décembre, l'armée israélienne affirmait pourtant contrôler la zone. Mais depuis dimanche, l'État hébreu a repris les bombardements. Et après presque 4 mois de guerre, l'ensemble de l'enclave reste un champ de bataille.
Thibault Lefèvre depuis Jérusalem. Aux États-Unis, le Sénat auditionne les dirigeants de Meta, X, TikTok, Snap et Discord. Les patrons des plateformes numériques sont venus dire qu'ils prennent des mesures de protection des plus jeunes pour éviter notamment tout risque d'exploitation sexuelle des enfants. Mais les élus américains ne sont pas convaincus. La correspondance de Sébastien Paour.
L'audition commence par une vidéo.
I was sexually exploited on Facebook.
Des victimes qui racontent qu'elles ont été exploitées sexuellement sur Facebook ou Instagram. Des familles qui relatent le suicide d'une fille ou d'un fils et affirment que les géants de la tech n'ont pas protégé leurs enfants. Accusation relayée par l'un des sénateurs à l'origine du rendez-vous, le républicain Lindsey Graham. Monsieur Zuckerberg, vous avez créé un produit que j'utilise. Mais le côté obscur n'a pas été traité. Il est maintenant temps de s'en occuper. Car des gens se sont emparés de votre idée et l'ont transformée en cauchemar pour le monde entier. Réponse du patron de Meta qui semble mal à l'aise devant ces notes. Je suis fier du travail que nos équipes accomplissent pour améliorer la sécurité des enfants en ligne, sur nos services et partout sur Internet. Nous avons environ 40 000 personnes au total qui travaillent sur la sûreté et la sécurité. Et nous avons investi plus de 20 milliards de dollars depuis 2016, dont 5 milliards rien que l'an dernier. Tout le monde est d'accord sur les dangers des réseaux pour les plus jeunes. Les patrons des plateformes disent qu'ils font ce qu'il faut. Le chemin vers une réforme est encore long. Au fond de la salle, les familles montrent les photos de leurs enfants victimes.
Sébastien Paour à Washington. Singapour et la Malaisie sont parvenus à un accord de principe sur la création d'une zone économique spéciale entre les deux pays. La Malaisie y voit l'opportunité d'améliorer la circulation transfrontalière des biens et des personnes et de renforcer l'attractivité économique de la région de Johor, l'état malaisien le plus proche de Singapour. Juliette Pietraszewski s'est rendue dans la ville de Forest City, aussi surnommée la ville fantôme, pour voir comment les habitants accueillent ce projet.
C'est une annonce qui réjouit la ville et ses quelques habitants. Forest City, habitée par seulement 9000 personnes sur une capacité d'accueil de 700 000, compte bien tirer son épingle du jeu avec cette future zone économique spéciale. Située littéralement en face de Singapour, la ville a bien du mal à attirer, en cause notamment des prix trop chers pour les Malaisiens. Cette agente immobilière a surtout affaire avec des investisseurs étrangers.
I think 90% is from China.
Je pense que 90% des propriétaires viennent de Chine. La plupart ne résident pas ici. Ils sont en Chine où ils ont leur propre business et leur propre travail là-bas. Les gens viendront ici uniquement pour leur retraite, je pense. Et puis ils utilisent leur appartement ici comme une résidence secondaire. Concernant cette zone économique spéciale, je pense que les journaux malaisiens ont quand même expliqué que ça allait prendre du temps de dynamiser la ville, que le gouvernement allait mettre près de 10 ans pour développer cet endroit comme il se doit, avec des banques, des écoles internationales, des hôpitaux. Donc avec un peu de chance, ici, on va avoir plus de gens.
Sur la plage de Forest City, ces deux Malaisiens louent des vélos aux passants. Pour eux aussi, l'annonce d'une zone économique spéciale est une bonne nouvelle, synonyme d'attractivité.
Je pense que c'est bon pour Forest City et l'état de Johor. Et pour l'économie, parce que bien sûr, on aura plus de visiteurs qui viendront vivre ici.
Oui, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de gens ici. Allez à l'étage, dans les magasins, il n'y a personne.
Singapour et la Malaisie misent notamment sur une nouvelle liaison ferroviaire en construction, dont l'ouverture est prévue en 2026. Objectif, diminuer les embouteillages à la frontière alors que c'est l'un des passages terrestres les plus fréquentés au monde. À Forest City, cette Malaisienne observe les ponts actuels qui permettent chaque jour à des milliers de Malaisiens de se rendre à Singapour pour travailler.
Là-bas, c'est un pont, oui, mais il y en a deux avec Singapour. Le nom officiel de celui-ci est le Second Link. Et le premier pont, qui est très vieux, peut-être âgé de 100 ans, s'appelle The Causeway. Depuis Forest City, comme vous le voyez, c'est le deuxième pont qu'on peut voir. Il est peut-être à 5 minutes de la ville. Il est assez proche et c'est facile pour les gens de quitter Forest City et de se rendre à Singapour tous les jours.
Facile en théorie seulement, puisque le passage à la frontière prend du temps. Subatira, vendeuse et habitante de Forest City, se réjouit de la future zone économique spéciale. Son mari se déplace tous les jours à Singapour pour son travail. Avec la nouvelle zone économique, c'est un contrôle d'immigration sans passeport, mais avec un QR code qui est en développement.
D'habitude, si mon mari travaille le matin, il doit partir 3 heures en avance, ou peut-être 2. S'il travaille la nuit, il commencera à 7 heures du soir. Il part vers 4h45, 5 heures de l'après-midi. S'il y a un contrôle plus rapide ou électronique, ça sera effectivement très utile.
Enfin, selon certains spécialistes, la zone économique spéciale entre la Malaisie et Singapour devrait aussi encourager les entreprises publiques des deux pays à investir dans l'État malaisien de Johor.
Juliette Pietraszewski, correspondante de France Culture en Malaisie. Un dernier mot sur la mobilisation des agriculteurs. 79 personnes ont été arrêtées cet après-midi après s'être introduites au marché de Rungis. Elles auraient commis des dégradations dans une zone de stockage du marché international avant d'être évacuées par les forces de l'ordre. Le temps sera nuageux demain au sud de la France. Au nord, des passages pluvieux, mais ils seront suivis de belles éclaircies. Les températures resteront douces avec des minimales allant de 3 à 8 degrés en général d'est en ouest. L'après-midi, il fera 9 à 13 degrés sur la moitié nord, 13 à 20 au sud. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.